Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute deux créations sonores. On commence avec Suivre l'oiseau, une création collective proposée par l'association Animal Debout. 8 membres ont réalisé pendant 2 semaines une pièce sonore collective sur la thématique des oiseaux, entre fiction, témoignages, enquête, mythe et poésie, accompagnée par le créateur sonore Antoine Richard.
Je pense que je vois plus trop d'oiseaux en ce moment. Je sais pas, je me disais que c'est étonnant en fait.
Mais moi c'est pareil, hein. Depuis que je suis là, je me demande mais où sont les oiseaux. Alors, des fois je vois un peu vite fait des oiseaux, mais là si j'ouvre la fenêtre par exemple...
Ouais, et puis on les voit pas en plus.
T'en vois ?
Non, je vois rien.
C'est peut-être pas encore l'époque de nidification.
Ouais, enfin, à ce point-là, c'est quand même étonnant. Si, là, il y a un truc là-bas.
Il y a un truc là-bas.
Attends.
Un tout petit truc. J'arrive même pas à identifier ce que c'est.
T'es sûr que c'est pas une antenne ?
Bah oui, quand même. Là, il plane.
Ah, tout au fond là-bas.
Ah, il vient de se poser. Il vient de se poser sur un toit. Il commençait à aller dans un sens et puis finalement non. Mais peut-être on peut profiter du fait qu'il fasse une pause.
Et on essaie de le retrouver en bas.
Ouais.
Allez.
C'est bon ?
C'est parti.
Et si les oiseaux revenaient ? Il n'en reste qu'une mémoire diffuse. Des histoires qu'on se raconte encore, des traces laissées de nos rencontres. Certains disent qu'ils sont toujours là, cachés quelque part, à nous regarder nous agiter. Pour les trouver, il nous faudrait partir, nous transformer et revenir. À eux, à nous,
trois. Oui, on est bientôt arrivés.
À eux avec nous,
deux.
Sentir la possibilité des ailes et le soyeux des plumes,
un.
Sonder les lieux et les temps,
hop.
Au cœur des villes, retrouver les champs.
Micro-trottoir.
On va voir les oiseaux.
Ah ben, vas-y.
Mais vous êtes pas un oiseau.
Quack.
Oula, il s'est pris. Il s'est pris une bourrasque de vent dans les plumes. Ah, il s'est envolé.
Vas-y, on le suit.
Et il est parti par où, là?
Je crois qu'il est parti par là-bas.
Bonjour madame, je vous appelle parce que je suis en train de faire une réservation en ligne pour votre hôtel, mais j'avais une question à vous poser avant pour être sûre de mon choix.
Bien sûr.
En fait, j'avais un souvenir qu'il y a 15 ans, j'étais venue, il y avait des oiseaux qui étaient très très présents sur l'avenue où est l'hôtel, et je voulais savoir s'ils étaient toujours là, les oiseaux. Ok. Vous voyez de quel oiseau je parle ?
Merci de patienter. Welcome to Novotel. commencer la journée sur une note positive avec nos petits déjeuners gourmands, sains et énergisants.
Oui, c'est moi. Donc pour les oiseaux, non, on n'a pas d'oiseaux.
Je voulais vérifier déjà parce que quand même j'ai le sommeil un peu léger, donc je voulais pouvoir un peu être préparée au cas où, quoi.
Non, du tout.
Mais
on n'a jamais de retour sur ça. Ouais, j'étais en stage il y a tout le mois de février et je sais que c'est très calme la rue là en ce moment. Donc,
Ok. Ok, mais je me souviens même plus comment il s'appelait. Enfin, je sais pas si c'était des. Je sais plus comment ça s'appelait.
Peut-être des rouges-gorges ou ce genre de petits oiseaux ?
Non, je pense quand même les rouges-gorges, c'est plus. C'est... Non, là c'était vraiment des oiseaux en bande, vous voyez. Enfin, des... Il y en avait des milliers, quoi. Enfin, c'était hyper impressionnant.
Des anges.
Non, c'était pas des... Non, les mésanges, c'est hyper mignon. Là, c'est vraiment, ils faisaient un vacarme épouvantable. Enfin, c'était hyper... Enfin, ça faisait presque peur, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, oh. Ouais.
Ah, c'est vrai. Mais non, mais j'ai noté. Et écoutez, je lui demanderai demain. Je commence à 15h, mais dans tous les cas, je passe le bon à mes collègues.
C'est inconcevable de toucher un oiseau et c'est inconcevable d'être dans un endroit fermé. Parce que je pense que j'ai besoin d'un échappatoire. En fait, la phobie, on m'a dit, c'est la peur de la mort, quoi. Instinctivement. Donc, moi, je pense que j'ai peur qu'ils viennent me tuer, quoi. Je suis comédienne, je m'appelle Audrey Caille, Caille comme oiseau. Je repère tous les pigeons, j'ai un scan à oiseaux façon dans la ville. Pendant que les gens me parlent en terrasse, par exemple là les beaux jours, être en terrasse ça va être un challenge, voire impossible quoi. Donc, je vais me mettre sinon sur la chaise ou sur la table. On est sur des attitudes qui ne sont pas très socialement adaptées. Je fais toujours des petites histoires, moi, avec des pigeons. De toute façon, il y a des pigeons boiteux, des pigeons qui n'ont rien demandé, mais que moi, je vois et qui me font peur. Donc, je ne veux pas m'installer dans les endroits où on attend. Parce qu'en fait, j'arrive pas à attendre, vu que je sais qu'ils sont là, qu'ils peuvent passer sous les jambes et tout. Si longtemps, à l'arrêt de bus à République, il y a un oiseau, il y a surtout un pigeon, hein, un pigeon qui fait le tour. Moi, j'ai l'impression qu'il va venir vers moi, donc moi, je fais le tour de l'arrêt de bus parce qu'il faut que j'attende mon bus. Il passe pas tout le temps, donc j'attends un peu. Et donc, du coup, il y a une petite ritournelle, pas de ritournelle, mais une petite ronde qui se fait entre nous deux. Alors que lui, je sais pas, il était peut-être en train de faire autre chose. Et les autres, ils sont assis, les autres personnes sont assises, et moi, je suis là en train de tourner autour de... Voilà. Ça peut paraître drôle de l'extérieur, parce que c'est vrai que c'est un peu drôle. Hein. Je le reconnais, hein. Même quand je suis à Paris, les gens, ils me regardent bizarrement parce que je vais me mettre à crier d'un coup. Mais du coup, je reviens après la normale, mais j'ai un peu toujours ce truc d'hypervigilance. Quoi. C'est les danses quotidiennes avec les pigeons, quoi, le sabre. C'est une relation en sens unique. Moi, je me dis toujours, c'est que... Moi, j'ai l'impression de vivre des choses avec eux, mais eux, pas du tout, quoi. Donc, j'essaie que ça n'impacte pas trop ma vie, quand même. Je voudrais revenir à plus d'acceptation, parce que moi, je kiffe les oiseaux. J'ai vraiment aucune animosité... envers eux, je les pousse, je les trouve trop mignonnes. Les gens, ils pensent que je les déteste, alors que je les déteste pas. Moi, je les reconnais, même. Je voudrais trop qu'ils m'aiment, quoi, que je les aime aussi.
Voilà.
Bonjour monsieur, je vous ai appelé parce que je cherche un renseignement. Je reviens à Rennes, ça fait 15 ans que je suis pas venue. Et en fait, je constate qu'il n'y a plus des tourneaux. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Alors là, c'est une excellente question. Je pense que j'ai plutôt vous rediriger par la mairie de Rennes, le service des jardins et de la biodiversité, qui serait, je pense, plus en mesure de vous répondre.
Là, actuellement, vous ne pouvez pas me dire où je peux trouver des étourneaux à Rennes ?
C'est une bonne question. Habituellement, ils sont au niveau des... Enfin, quand j'en vois, ils sont au niveau des grands arbres sur l'avenue Janvier.
Ouais.
Sinon, c'est vraiment là où j'en ai en tête. Mais après, on arrive au printemps. Voilà, ouais. Là, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je ne suis vraiment pas spécialiste d'ornithologie.
Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est des oiseaux saisonniers. Donc, ils sont plutôt là en hiver. C'est ça ?
Poser une colle, oui, je suis vraiment navré, j'aurais de la difficulté à répondre à vos questions.
Bon, eh bien, je vous remercie et je viendrai vous dire ce que j'ai appris. Au revoir.
Pas de soucis, au revoir, madame. Bonne journée.
On m'a dit que des fois, il y avait des oiseaux dans les supermarchés.
Tu penses qu'il a pu venir ici ?
Bah, je l'ai vu partir dans cette direction, en tout cas.
Il pourrait être où ?
Je sais pas, là, c'est le rayon galette. Ça mange pas de galette, je crois. Je sais pas...
Qu'est-ce que ça mange ?
Des protéines. Des insectes.
On peut aller au rayon pêche ?
Au rayon pêche.
Ça mange des graines aussi, non ?
Mélange salade. Peut-être qu'il va aimer ça.
Attends, je prends un sac.
C'est où ? Le pain de mie. Je pense pas que ça leur fasse du bien, le gluten. Les chips.
Pour les oiseaux ?
Ouais. Ok. Je pense que c'est mieux les insectes quand même.
On va voir.
T'entends pas un bruit ?
La poupouine. Hop. Ouais. Te voilà, toi. Mais du coup, on le nourrit comme un chat, quoi. Il peut pas se nourrir tout seul. Ouais, quasiment. Donc, si on part en vacances, faut presque qu'on fasse garder le poupouine, quoi. Donc là, il va me voir, normalement. Il est là-bas.
C'est vraiment l'oiseau de compagnie, quoi. Tu sais, qui vient te chercher un peu, t'ouvre ta porte, elle rentre à l'intérieur de ta maison.
Et elle a ses préférences. Quand vous n'êtes pas là, elle vient chez nous.
Ouais, mais on est un peu gaga. Moi, je suis un peu gaga avec elle. Tu vois, j'essaye de l'apprivoiser, j'essaye de rentrer en communication avec, faire des pouls. J'ouvre la fenêtre, elle vient un peu, tu vois. Je cuisine, elle passe par la fenêtre. De temps en temps, elle vient manger au creux de la main, mais ça, c'est vraiment... rare. Et quand elle est pas contente, elle nous fout des claques avec ses ailes. Si jamais tu essayes de la toucher, elle fait comme ça. Paf, elle te fait une petite claque, quoi. Il fait des... Quand il est pas content, un peu, si vraiment tu dis allez, viens.
On a constaté qu'il nous niaquait depuis quelque temps. On se demande s'il est pas en manque d'amour. Mais...
On a déjà vu des parades où il essaye de... un peu de faire des parades avec les pigeons, enfin du quartier. Pigeon gris là un peu, et puis il fait des allers-retours, il fait comme ça.
avec, il fait une chorégraphie avec son cou comme ça. Mais ça n'a pas l'air d'aboutir à quelque chose. C'est Poupougne, ouais, Poupougnette. Des fois je dis il, des fois je dis elle et je me perds. Pour moi c'est un mix, tu vois, c'est un mélange quoi. C'est un Poupougne quoi. La casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurú, cucú, paloma. Cucurú, cucú. Bonjour. Je vous écris par la présente pour furieusement dénoncer la présence d'étourneaux sous mes fenêtres. Je suis excédée par ces maudits volatiles. Ils troublent ma quiétude, m'agacent de leur piaillement et, vous me pardonnerez l'expression, me rendent chèvre. Je ne peux plus jouir de mon salon de lecture. Ils m'observent par la fenêtre avec leurs petits yeux perfides, tentant sans grâce aucune d'attirer mon attention, avec moult coups de bec tapés au carreau et autres agaçants pépiments incessants. J'ai perdu le sommeil à cause de ces maudits oiseaux. Sitôt les rideaux tirés de ce qui fut autrefois mon antre de paix, ces effrontés entament leur chant maudit qui ne s'arrête qu'au petit matin. J'ai les traits tirés, le regard torve, des cernes à faire pâlir le plus grand des ormes. Et il règne dans ma vie le plus grand des désordres. Je ne peux plus faire face à mes obligations quotidiennes. Je n'arrive plus à trouver de plaisir dans ce qui me rendait naguère d'humeur joyeuse. Ouvrir en grand les fenêtres pour profiter de la fraîcheur de l'air matinal, à présent remplacée par la fétidité de leurs déjections animales. Je suis plongée dans les abîmes infernales du tourment. Il faut que ça cesse. Au plus vite. Je vis terré chez moi, ne sortant plus que couvert d'une peau de bête pour que ces volatiles ne repèrent pas mon odeur. Évidemment que les voisins pensent que mon obsession est disproportionnée, mais j'en peux plus. Je suis à bout. J'implore donc votre clémence. Coupez les arbres, tous les arbres de l'avenue Janvier, tous les arbres de la ville. Équipez chaque riverain, chaque riveraine de fusils à pompe pour chasser ces indésirables. Comptant sur votre diligence, je reste à votre disposition pour venir récupérer les armes et m'empresse de ce pas de prévenir le voisinage que les arbres de l'avenue comme de la ville seront coupés sans délai. Bien à vous, Aurèle Pinson.
Bonjour monsieur.
Oui,
la personne de l'accueil a transféré l'appel, mais je ne sais pas à qui.
Je me présente, je suis Dominique Durand. Donc actuellement, je suis en charge de l'habitat, mais j'ai travaillé donc sur la problématique étourneaux, puisque j'étais référent animaux sur la ville il y a quelques temps, ça, il y a un an et demi. Donc les étourneaux, on était sûrement sollicités sur deux secteurs essentiels, centre-ville. Donc il y avait l'avenue Janvier, mais il y avait aussi le secteur de Villejean, en face donc la dalle Kennedy, qui était impactée par la présence d'arbres, de conifères notamment, où les étourneaux trouvaient refuge. Une densité importante d'arbres sur cette avenue. Et donc on intervenait pourquoi ? Parce qu'il y avait des signalements de rennais, et donc ces rennais se plaignaient des odeurs, des nuisances aussi... sur les voitures, lorsque les étourneaux déchargent, sur les terrasses de café, etc. Voilà. En gros, c'était des nuisances. L'étourneau en lui-même ne nous dérangeait nullement, mais vis-à-vis des signalements qu'il y avait, on avait pris le parti d'aller les déranger. Hein. C'était pas, le but, c'était pas de les maltraiter du tout.
Vous dites qu'ils déchargent quand ils sont stressés. Est-ce que vous pouvez... Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui stressait en fait ces étourneaux
Oui, alors Alors, il y a plusieurs choses. C'est d'une part, lorsque nous menions donc des opérations d'effarouchement, on émettait donc des bandes sonores hein, qui imitaient le cri du jet. Le jet est un oiseau qui annonce un danger, pas un prédateur, je dis bien. Il annonce un danger, donc à partir du moment où on circule avec des véhicules qui étaient équipés d'haut-parleurs et qui diffusaient cette bande, les étourneaux allaient d'un endroit à l'autre. Et donc ça les stresse, quoi. C'est-à-dire qu'on passait régulièrement dans les rues le soir et le matin très tôt. Et donc, à partir du moment où ils sont stressés, ils vont décharger. C'est-à-dire que les fientes, si vous êtes dessous, vous êtes couverts de fientes. Donc nous, on leur demandait, en gros, de regagner leur campagne, quoi.
Ouais.
Des gens qui considéraient que c'était une forme de maltraitance, quoi. Puis bon, aussi, c'était un petit peu bruyant, donc ça gênait certaines personnes, parce que nos véhicules... Quand ils émettent à 6h du matin un cri strident dans les rues de Rennes avec une caisse de résonance importante, je peux comprendre que les gens soient un petit peu excédés, quoi.
Généralement, ils restaient pas longtemps. C'était des périodes où les étourneaux arrivaient. Et effectivement, dans un premier temps, il y avait un truc un peu stylé de voir des volées d'oiseaux... vraiment qui narcissent le ciel, puis construit de proxémiques où ils bougent tous en même temps, dans le même sens. Tout cet aspect où on a tous ragé collectivement avec les copains sur le fait que la ville faisait des patrouilles avec des haut-parleurs qui balançaient des cris de chouka. Ils envoyaient des fusées avec des pétards dans les arbres pour les chasser. Les premières années, ça nous choquait vachement et... Il y avait un truc un peu débile de voir qu'on a buté tous les bocages, donc ils n'ont plus d'habitat en dehors de la ville, et on est en train de buter leur habitat dans la ville, et en même temps dans la ville on les chasse partout. Il y avait vraiment cette première position, et puis à force, il y a eu ce truc de gentrification, je pense, massif dans le centre de Rennes, où les politiques pour chasser les étourneaux ont été ultra renforcées. Et des quartiers comme Villejean et Kennedy, qui sont des quartiers bien plus cosmopolites, avec soit des étudiants, des jeunes adultes, des migrants, des personnes de toute origine.
Des gens qui habitent là depuis des années aussi, générations un peu plus anciennes qui sont là depuis peut-être 40 ans aussi.
C'est des quartiers qui ont été construits dans les années 70, là, avec ces grandes dalles. Mais je pense que c'était clairement des quartiers qui ont été un peu oubliés, où on s'est dit que le problème du centre-ville a été déporté sur ces quartiers-là. C'était plus un problème, quoi. Je me souviens que même quand ça a commencé à durer, la première année où ils ont commencé à plus partir, en fait, à vraiment juste rester nichés là toute l'année, il y avait les voisins, je sais pas, du 5e, du 6e, oui. Un truc comme ça, qui faisaient du trombone et qui, du coup, tous les soirs, quand les oiseaux arrivaient et commençaient à nicher, commençaient à faire du trombone un max à la fenêtre pour essayer de les chasser.
Tu voyais la marche impériale de Star Wars.
Ouais, t'avais des trucs comme ça. Je sais que tu voyais les étourneaux qui se posaient et qui repartaient de l'arbre. Une espèce de masse noire qui explosait vraiment des branchages, quoi, à chaque coup de trombone. Il y a un moment où on s'est posé la question de quitter l'appart. Vraiment, il y a eu un moment où on était excédé et à bout.
Tu peux plus dormir, en fait. T'es fatigué, t'es jamais reposé, t'es jamais tranquille, tu peux pas accueillir des gens.
On avait mesuré au dB-mètre, fenêtre fermée, dans la tour. On avait l'équivalent d'un bruit d'aspirateur perpétuellement dans la chambre la nuit, en termes de volume, quoi.
Et c'est constant, quoi. C'est la nuit, la journée, c'est perpétuel, quoi.
C'est ça.
Ils ont un dérèglement de leur horloge interne, je sais pas si on peut dire ça, mais ils étaient complètement déboussolés et ça se voyait parce que certains tombaient d'épuisement et ils n'arrivaient pas à dormir, quoi.
Ouais, y avait des cadavres qui tombaient jour après jour. Il y a une couche de guano massive qui a buté déjà plein d'arbres et plein d'espaces verts autour des immeubles. Ça fait partie d'une nouvelle forme de pollution, quoi, qui est générée par une incapacité à cohabiter, une incapacité à trouver des espaces pour ces animaux-là, quoi.
Ah, bonjour, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais solliciter via les gens du quartier un collectif pour les impliquer, c'est-à-dire qu'ils venaient nous aider à procéder à ces opérations d'effarouchement. Je leur ai prêté du matériel, des sonophones, etc. Et avec des agents de la ville de Rennes, ils sillonnaient le soir, surtout, moi le matin, les rues, pour qu'ils se rendent compte de la difficulté qu'on rencontrait. Et finalement, on avait très peu de champ d'action, quoi. C'était difficile de lutter contre ces étourneaux.
Bon, on avait sollicité la mairie, on avait sollicité vraiment le localement sur le truc, mais de demander des solutions. Et typiquement, dans les gens qui demandaient des solutions, il y avait une volonté écolo aussi. Moi, je me souviens d'avoir justement suivi toutes ces discussions, et le discours, c'était vraiment pas de les buter ou de s'en débarrasser ou quoi que ce soit. Puis il y avait un énorme débat sur justement pas détruire les derniers arbres et espaces verts du quartier qui leur servaient de nichoir. Mais en même temps, la seule réponse que la mairie justement nous a apportée, c'est vous voulez vous en débarrasser, nous on a déjà mis en place des choses. Là, ce qu'on peut vous proposer, c'est de couper tous les arbres. On leur a tous dit non, le comité de quartier a dit que c'était pas du tout la volonté, et ils ont quand même coupé les arbres contre la volonté du quartier, quoi.
On a décidé donc sur le quartier de Villejean de réduire la densité d'arbres. Étaient trop serrés d'ailleurs. On les a plantés à une époque où la densité était importante, quoi. Il y avait beaucoup trop. Et puis on a également éliminé des arbres type conifères qui étaient dans un état sanitaire lamentable parce que au fil des années avec les fientes, elles s'accumulent sur les branches et viennent un petit peu étouffer la végétation, l'arbre qui finalement ne présente aucune splendeur, quoi. Il est en train de mourir. On a remplacé donc par d'autres espèces, par d'autres variétés d'arbres. Hein. La direction des jardins a travaillé énormément sur le sujet. On en a d'ailleurs plus replanté que coupé, mais avec des essences différentes, à savoir plus de caduc. Parce que l'étourneau, il ne va pas aller se percher sur un arbre qui perd ses feuilles.
En fait, c'est quand même assez délirant de voir que justement, c'est déjà des îlots de béton, tous ces quartiers-là, et de voir que la seule réponse... face effectivement à un problème de cohabitation qui était véritable, ouais. Enfin, il y a vraiment un truc de double peine, quoi. Et que, ouais, en soi, c'est pas de la faute de ces pauvres oiseaux, quoi. C'est des politiques locales et ouais, des choix, des choix de repousser le problème plutôt que de le gérer en inventant des espaces de cohabitation et des îlots de verdure. Adapté à de la cohabitation, quoi.
Et ça a fini par marcher, pas tout de suite, mais ça a fini par marcher. Les oiseaux sont partis de notre quartier, mais je sais pas où ils sont allés, quoi.
Ils sont allés un peu plus loin.
Allés dans d'autres quartiers, mais après, la politique a dû être la même. Je sais pas comment ça s'est passé dans d'autres quartiers, mais si ces animaux-là peuvent plus être en campagne, peuvent plus être en centre-ville, même dans les quartiers excentrés de la ville, où est-ce qu'ils sont, quoi?
Qu'on trouve des niches. Si on trouve des niches, on trouve potentiellement de la vie dedans.
Ah, le plafond.
Ah, tu vois, quand même. T'imagines tout ce qui peut se passer au-dessus, là?
Ah, mais ça, ceux qui arrivent à se faufiler, c'est clair.
Pas faut vouloir y rester, hein. En tout cas, entre les grilles, les oiseaux, ils peuvent largement y aller. Hein.
Ouais, je sais pas s'il se méfie pas des bagnoles, tu vois.
fait peur.
J'ai l'impression d'entendre des sons aigus. J'entends pas d'oiseaux.
Quoi ? À l'instant, je viens d'en entendre un.
Par là-bas ? Ah oui. Rêver à un cri d'oiseau.
Bonjour.
Vous avez déjà vu des oiseaux ?
Des oiseaux ?
Oui.
Non.
Jamais vous avez entendu un oiseau ou vu un oiseau ?
Non.
Là, on est tout en bas. Je crois que j'ai vu un mouvement d'ailes au plafond, tout là-haut. C'est un vrai arbre ou un faux arbre ? On va voir dans l'arbre s'il n'y en a pas loin. Allez.
Tu entends les oiseaux ?
Ouais.
Mais c'est un faux arbre. Mais c'est de la vraie écorce, j'ai l'impression, mais elle est collée dessus, tu vois. Là, tu regardes en haut, c'est pas un vrai chêne. Imagine, ils ont collé de la mousse là-dessus. Mais oui, on commence à entendre les oiseaux, les petits oiseaux.
Peut-être qu'il faut qu'on monte au dernier étage de la gare pour se rapprocher de la verrière. Mais là, on les entend piailler.
Là hey, t'as vu où il va ?
Ouais, en fait, ils ont plein de niches secrètes, quoi, de petits nichoirs secrets. Oh ah.
T'en vois ?
Mais non, je le vois pas, mais je l'entends.
Ça piaille à fond.
Là ? Ah oui !
Là ! Ah oui, le petit ! Je le vois pas. Je vois plus.
Là, ça y est, il a disparu.
Immense prairie et j'étais avec mon papa, ma maman, mon frère et ma soeur, et puis il y a un corbeau d'une taille qui avait la taille d'un humain, énorme corbeau qui vient et qui se pose sur ma tête, et je me souviens il avait des pattes mais énormissimes quoi, et il se pose sur ma tête et il en bouge plus. Et je me souviens que le réflexe de mon père et de mon frère, ça a été d'essayer de l'enlever. On a essayé de l'enlever, de le faire fuir, etc. Sauf qu'il était accroché comme collé à ma tête, quoi.
Voir une corneille, annonce d'un décès. Voir une corneille sur des arbres, rencontre familiale. Capturer une corneille, deuil et dissension. Voir une corneille morte, on découvrira une calomnie. Manger une dinde, aisance au foyer. Voir un faucon, succès à la chasse. Entendre siffler un merle, message heureux. Voir des corbeaux se poser sur soi, danger de mort. Effaroucher des corbeaux, on parviendra à échapper à un grand danger. Corbeaux qui croissent, mauvaise nouvelle.
fait, la seule solution qu'ils ont trouvée pour enlever ce corbeau de ma tête, ça a été de le tuer. Et j'ai une image de mon père et de mon frère qui arrachent le corbeau de ma tête et qui le tuent, qui le déplument. Et c'est un massacre, en fait. C'est une scène terrible. Et le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai encore cette sensation des deux pattes du corbeau sur ma tête. Et j'ai un mal de tête. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir les empreintes des pattes du corbeau. Et après, j'ai regardé qu'est-ce que ça signifiait d'avoir un corbeau comme ça sur ma tête et que l'un de mes proches détruisait, quoi. Alors, le corbeau, c'est toujours un signe de mauvais présage. Et donc, au début, je me suis dit, OK, l'avoir sur ma tête, qu'on le tue, donc ça veut dire que... Et après, je me suis dit, en fait, non, c'est un signe protecteur. En plus, le corbeau, c'est un oiseau que j'ai toujours trouvé très beau, comme les chats noirs. Je trouve qu'au contraire, c'est hyper classe, un corbeau. Enfin, les animaux tout noirs, je trouve ça toujours très beau.
C'était il y a à peu près un an. Sur une maison d'en face, chez moi, là, il y avait un couple de goélands qui avait nidifié. On a vu un tout petit goéland qui était né sur cette cheminée. Mais un jour, il a glissé sur le toit et est tombé dans le jardinet de voisins d'en face. Ça a provoqué une grande panique chez tous les goélands du quartier. Ils piaillaient, ils volaient en piqué autour de ce petit jardinet. On l'a recueilli. Et ensuite, c'est ma voisine qui a pris le relais.
Donc, ce petit bébé goéland, je l'ai rencontré en mai 2025, en bas de chez moi. Il y avait mon voisin qui venait de le récupérer. Et en fait, on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire. Et surtout, on s'est dit qu'il fallait que les parents puissent venir le nourrir et puis rejoindre leur petit, quoi. Et je ne sais pas comment est venue l'idée. On va construire une petite plateforme pour que les parents puissent atterrir. Et on va mettre un petit panier avec le bébé goéland dedans. C'était le début du truc, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a fait n'a jamais marché. Il a toujours fait autrement. Et donc, le premier truc, c'est qu'on s'est dit, on va mettre la plateforme sur le toit avec le panier, et on a mis le bébé goéland dedans. Et au bout de 3 minutes environ, le bébé goéland était dans la gouttière. On s'est dit, les adultes, parce qu'il y avait ma fille à la côté, c'est un peu mort cette histoire, ce bébé goéland, on ne sait pas trop comment il va s'en sortir. Et là, moi, j'ai ma fille qui éclate en sanglots et qui me dit, mais maman, tu m'as dit qu'il y avait toujours une solution. Et donc, me voilà partie à cogiter, et je sais pas, à 10 ou 11 heures du soir, j'ai fait un mail à la LPO. La LPO, elle m'a rappelé à 8h30 le lendemain matin, pour me dire, nous, on peut pas intervenir. Par contre, appelez Faune en détresse. Faune en détresse, ils prennent toutes les infos, et ils me disent, votre gouttière, elle est beaucoup trop haute, on peut pas venir non plus. Les seuls qui peuvent, c'est les pompiers. Et donc, me la partie à appeler le pompier, un peu pas très à l'aise quand même, parce que tu te dis toujours que tu prends la ligne pour un glace, c'était un bébé goéland, tu te dis s'il y a une urgence humaine, en fait. Enfin voilà, tu culpabilises un peu. J'appelle et les pompiers, ils me disent pas de problème, on est là dans les 5 minutes. Donc voilà la grande échelle qui arrive. Et le pompier qui va récupérer le bébé goéland dans la gouttière, il s'appelle Xavier et ses collègues nous demandent du coup si on peut appeler ce petit bébé goéland Xavier. Et ce que j'avais pas prévu par contre, c'est que quand ils ont redescendu le petit Xavier, ils l'ont mis dans le petit panier en osier et ils me l'ont redonné. Et moi je me suis retrouvée avec le petit truc et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire ? En fait, on revenait un peu au point de départ. Comment ça, à regarder un peu le mode de vie des Gaulands, et on se rend compte que les têtes de sardines, c'est parfait et c'est gratuit, puisque quand tu vas au marché, les poissonniers donnent les têtes de sardines. On leur racontait un peu l'histoire, ça faisait marrer tout le monde, et on repartait avec nos têtes de sardines. Et au bout d'un moment, il a mangé dans la main. Ça a duré, je sais pas, une semaine peut-être. On s'est dit, il va bien falloir qu'on le rende à ses parents. Enfin, on peut le nourrir comme ça, mais on va pas lui apprendre à voler. Et donc, on a pensé au petit parc du bout de la rue. Donc, nous, la partie avec notre petit bébé goéland dans un seau, en essayant un peu de le faire parler pour que ses parents sachent et puissent nous suivre à la trace. Donc, parfois, il la perdait, on faisait marche arrière, on récupérait les parents. Et on est arrivé dans ce petit parc. On était un peu flippés au début parce qu'il y avait des pies, il y avait des chats, il était tout petit, ce truc. Donc, on s'est dit, mais comment il va s'en sortir? Il y avait un monsieur à la rue qui avait établi son campement dans le parc. On discute 5 minutes avec lui, on lui demande s'il a besoin d'un truc, et puis on lui dit donc à faire que ben on est en train de relâcher entre guillemets un bébé goéland s'il peut avoir un œil dessus. On rentre chez nous. Une demi-heure plus tard, j'entends des cris de goéland, et donc je voyais les parents dans tous les sens, et je vois le monsieur du parc qu'on venait de croiser, qui était un peu en panique, voilà, qui avait plein d'enfants qui le suivaient. Et je regarde en bas et je vois le petit Xavier, donc qui était parti, et qui revenait dans la rue en fait. Et c'était au même moment qu'il y avait la sortie de la prière. On a une mosquée au bout de la rue, donc il y avait plein de gens. Donc, il y avait tous les fidèles, il y avait ce monsieur-là du parc avec les enfants qu'il avait suivis. Quand même, à ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé dans la rue entre les humains autour de ce petit bébé goéland. C'était vraiment génial. Il y avait des gens des tours là qui étaient là, c'est pareil, qui regardaient, qui voulaient aider. Enfin, c'était vraiment un chouette moment. Et personne ne voulait aller le chercher. Et donc, je vais le chercher sous une voiture. Du coup, je l'ai ramené dans le parc, au même endroit. Et moi, je suis partie. Et en fait, de ce que j'ai compris, il est sorti peut-être au bout d'une heure encore. Il a dû passer plus d'un mois dans la rue à l'arrière. On voyait, en fonction de son avancée dans la rue, il y avait des pots de croquettes de chien, parce qu'il mange des croquettes pour chien. Trois maisons plus bas, il y avait un bol d'eau. Trois encore maisons plus bas, il y avait une bassine pour qu'il se baigne. Enfin, on voyait bien qu'il était allé un petit peu partout et que les gens, ils avaient donné ce qu'ils pouvaient. Mais je pense qu'avec la canicule, les parents, ils sont devenus vachement agressifs. Enfin, les gens changeaient de trottoir, en fait. Il y avait même des gens, soi-disant, qui passaient plus dans la rue. Enfin, et ça s'est arrêté quand les températures ont baissé. Puis il a pris son envol. Alors moi, je sais pas si quelqu'un l'a vraiment vu, mais on le voyait grandir. On voyait bien qu'il commençait un peu à changer, puis avoir du duvet, avoir des vraies plumes. Vers, la fin du mois de juillet, il a dû s'envoler. Jusqu'à début février, je pense, on le reconnaissait parce qu'il était encore brun. Il n'avait pas encore pris la couleur argentée de ses parents. Là, je ne le reconnais plus, moi. Alors, est-ce qu'il est parti ou est-ce qu'il a changé de couleur? J'en sais rien du tout. Mais quand même, ils sont souvent quatre maintenant sur cette maison. Alors, moi, je me dis peut-être qu'il y a les parents, puis qu'il s'est trouvé une nénette. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un garçon. Xavier, on dit Xavier parce que c'était le pompier qui l'a sauvé, qui s'appelait comme ça. Mais voilà, peut-être qu'il y a un deuxième couple. Je n'en sais rien. Ils ont quand même mis une animation de fou quand on était dans cette histoire-là. En tout cas, on s'est pas ennuyé avec eux pendant plusieurs mois quand même. Ils sont vraiment partis de la rue, voire un peu plus large du quartier, quoi. Donc on suit leur petite vie. Avant Xavier, je me suis rendu compte que je voyais les oiseaux, mais je les regardais pas vraiment. C'était comme des objets de décor. Maintenant, j'essaie de comprendre ce qu'ils font. Il y a cette part de sauvage, en fait, qu'on n'a pas maîtrisée. Ouais, et d'ailleurs, tant mieux. Ça a changé ma manière de regarder les oiseaux.
Suivre l'oiseau. Un documentaire de Estelle Ribert, Franck Laurence, Julia Brunier-Caldera, Florence Voisin, Lorraine Yvet, Claude Lavalette, Nathalie Georges, Julien Posnick et Antoine Richard.
Je croyais que c'était un oiseau magnifique, mais c'était un bout de plastique. Je croyais que c'était un oiseau magnifique, mais c'était un bout de plastique. On croit toujours et on aime ça. On croit toujours et c'est pas ça. Que c'était un oiseau magnifique, mais c'était un bout de plastique. Je croyais que c'était une lutte politique, mais c'était un bout de plastique. Je croyais que c'était sur ma jambe une tique, mais c'était un bout de plastique. On croit toujours et on aime ça. C'est pas ça. On croit toujours et on aime ça. On croit toujours et c'est pas ça.
La gymnastique continue avec Quand la radio trompe l'oreille, une création du collectif Micro-Sillon réalisée lors d'un atelier animé à La Paillette, à Rennes, le temps d'un week-end en avril. Les participantes ont expérimenté l'écoute, la prise de son et le montage et ont créé collectivement, en deux jours, quatre créations sonores qu'on écoute maintenant.
Quand la radio trompe l'oreille. Quand la radio trompe l'oreille, quatre créations radiophoniques de l'atelier d'écriture sonore du collectif Micro-Sillon à la MJC La Paillette.
Mais attends, mais des potins, tu sais bien que...
J'ai rien, je suis désolée.
C'est pas grave, non, mais je ne suis pas désolée, très bonne, nous on est à vous.
Ah, toi aussi, on crève.
Excusez-moi, pardon de vous déranger.
J'ai c'est rien du tout, regarde.
C'est grave.
Merci, il y a tant à la liberté. La liberté s'arrête là où sont les autres.
Ah oui, on dit chat.
son amour pour moi l'animal. Mais je ne lui appartiens pas. Je prends mon envol, je m'émancipe. Il fait le mal.
La Cornue, la ville de Cornue, oui, je connais parce que mes enfants habitent là-bas.
Pourquoi je me suis enfui?
Parce qu'il y avait l'espace pour m'enfuir. La cage était ouverte, donc j'ai pu m'envoler.
Bah, je me suis enfui...
Pour la même raison que tout le monde s'enfuit, pour la liberté
et... C'était une cage, donc j'ai l'impression que j'étais enfermé, quoi. Donc certainement que je voulais retrouver ma liberté.
Et parce que je me sentais trop à l'étroit chez un propriétaire et que le principe même de propriété d'un être vivant me dérange au plus haut
point. Je ne lui appartiens pas. Je prends mon envol. Je m'émancipe. Me fais la malle.
Foutez-nous la paix, les propriétaires. Foutez-nous la paix.
Je vois mes belles plumes. Très longues. Ces plumes, elles sont colorées.
Coco.
Comme un perroquet. Et pourtant, là où je vis, c'est tout gris.
Rouge, bleu, jaune.
Coco. J'imagine un mini Chewbacca, en fait, je crois.
Je vois mon pelage jaune éclatant beaucoup plus qu'avant. Ma petite corne sur la tête qui me donne mon nom, qui, je crois, a poussé de quelques centimètres.
Vert et bleu. Parce que je vis dans l'eau. Et un peu sur l'eau et un peu sur la terre. Un peu comme les canards, j'aime bien les canards. On est cousins éloignés avec les canards.
Ben, je vois plutôt des grandes oreilles, mais voilà, je suis pas complexé spécialement, mais elles sont très jolies, ma foi très poilues. Et également ma trompe, bon ça j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec. Mais voilà, et les dents, le grand dent, après on fait avec. C'est très pratique pour manger de la viande, donc je me plains pas trop.
Coco Cornu !
Il s'est enfui parce qu'il avait peur ?
Oh là, pour l'instant, je pense pas, je suis pas prêt, je pense psychologiquement là, faire le pas. Mais on sait jamais, peut-être un jour je vais revenir sur mes pas. Et...
Qu'il accueille d'autres personnes en migration, qu'il soit plus ouvert sur les autres animaux qui n'ont pas le choix de quitter leur territoire. Quand on laisse la place au monde vivant, aux animaux, aux insectes, ils reviennent très vite. Donc c'est pas compliqué en fait, juste on plante 15 fleurs genre mellifères et en fait il y a des abeilles qui vont venir quoi. Du coup c'est assez chouette parce que on a que des discours un peu genre déprimants sur ces sujets là et en fait voilà, quand on laisse faire le monde vivant il est là quoi, il revient
à la condition que la panthère elle revient jamais.
Je me fais la mal, je me fais la mal, je m'émancipe, c'est mon envol.
Connaissez la différence entre un pingouin et un manchot?
Oh waouh!
Wow, je sais pas. Oui. Ça c'est une bonne question, mais ça je sais pas.
Je dirais la taille et la manière de marcher.
Et les manchots, ils ont le ventre. Enfin, il y a du jaune et du blanc, alors que les pingouins, ils ont pas de jaune.
Le pingouin est plus petit que le manchot.
Ça porte un petit trois pièces un pingouin normalement, un petit costume. Ouais.
Ouais, je les verrais bien mettre des costumes. Donc voilà, des costards cravates noirs et blancs.
Ah, ils sont pas habillés pareil. Je sais plus trop, je crois que le pingouin a un haut noir et un bas blanc, et puis le manchot c'est l'inverse.
Je crois qu'ils vivent pas au même endroit. Je sais que le manchot c'est en Antarctique, et le pingouin je crois que c'est pas forcément que là-bas. Et il y en a un qui sait nager et pas l'autre je crois, ou alors pas très bien.
Les manchots ils vivent au pôle sud. C'est ça, non? C'est l'inverse, je sais plus.
Le manchot écoute de la musique classique, au même titre que les pingouins, à mon avis. Ouais, c'est ça.
Ouais, je dirais ça, peut-être. C'est juste qu'il doit aimer des musiques assez sophistiquées. Je le vois bien. Ouais, je le vois bien faire ça.
Le pingouin, je pense qu'il est très reggae, en vrai.
Le pingouin aime énormément danser.
Ça s'enjaille chez les pingouins? J'imagine, non?
Je pense qu'il y a pas mal de manchots qui aiment bien faire des petites maquettes.
Ouais, genre des maquettes de Titanic, c'est un peu glauque peut-être, mais... ou des maquettes de châteaux et tout.
Le pingouin, il est plutôt actif, lui, par contre. Il construit des cabanes et des igloos aussi.
J'imagine des espèces de grosses bastons le samedi soir. La nuit des bagarres et dans la journée du toboggan.
Le pingouin, il peut voler, je crois.
Un pingouin, ça va dans l'eau. Et un manchot, ça va dans l'eau aussi. Mais c'est plus long. Un pingouin est plus debout. Et un manchot, c'est plus dans l'eau. Il est plus long, non?
Quand la radio trompe l'oreille.
Quelque part sur Mars.
Je suis rentré.
Alors, bonne journée.
Bon, encore une tempête de débris d'amarcissage. Les touristes se sont plaints de ne pas pouvoir prendre des photos. Faut qu'on arrête d'accepter le transit de navettes européennes. On va pas accueillir toute la misère du monde. Tu as des nouvelles, les enfants?
Non, pas depuis leur départ en recyclage.
À quand est-ce qu'ils reviennent déjà?
Alors, pour Gemini 11, c'est prévu pour le troisième cycle solaire, et Lyra 8, ça doit être un peu avant la célébration de l'Alpha Musk.
C'est parfait. Ils vont enfin retourner dans les mines de cuivre. Et au fait, tu as réglé l'abonnement du lien vital Starlink?
Ah non, mon chéri. Tu m'as dit que tu t'en chargerais.
Ah.
T'as oublié.
Saloperie de puce mémoire, elle a encore planté. J'ai mis une alerte, pourtant, il faut que je fasse une mise à jour.
Je t'ai dit que ce n'était pas une bonne affaire, cet implant. Mais tu n'en fais qu'à ta tête, comme toujours.
Arrête avec ça.
Terminaison du lien vital.
C'était quoi, ça?
Alerte critique.
Attends, on est combien? On est 17? Me dis pas qu'on est 17.
Désactivation.
J'ai pas payé l'abonnement.
Merci d'avoir choisi les services Starlink.
Quand la radio trompe l'oreille, quatre créations radiophoniques de l'atelier d'écriture sonore du collectif Micro-Sillon à la MJC La Paillette. Avec Elena, Jenny, Laurent, Cécile, Paola, Ronan, Pauline, Maëwen et Bérangère. Micro-Sillon, avril 2025.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu « Quand la radio trompe l'oreille », une création du collectif Micro-Sillon. Et avant ça, vous avez entendu « Suivre l'oiseau », une création du collectif Animal Debout, accompagné par Antoine Richard. Pour plus d'exercices, rendez-vous dans les archives de l'émission sur canalb.fr. Et sinon, à la semaine prochaine.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.